Bon, aujourd'hui, on va parler d'Italie, de l'histoire de l'Italie, et en particulier de l'histoire des luttes de la classe ouvrière en Italie. Comme vous allez le voir, c'est une histoire riche, et on aura l'occasion de discuter toutes les leçons qu'on peut tirer de cette histoire pour aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'État italien il s'est formé relativement tard, il y a 162 ans, en 1861. C'était 30 ans après la création de la Belgique. Et ce qui est notable avec l'unification italienne et qui contraste avec, par exemple, la Révolution française, hein, quand l'État français et la France elle est née, c'est ce qui a eu lieu au travers d'une révolution bourgeoise, c'est qu'en Italie, cette unification, elle a été négociée par la bourgeoisie main dans la main avec les autres puissances européennes et avec les classes féodales. Parce que la bourgeoisie italienne, comme européenne en général, ainsi que les aristocrates, y craignaient de voir l'immense armée des prolétaires des villes et des champs faire irruption sur la scène politique et les balayer tous. Alors la bourgeoisie italienne, elle s'est alliée avec les classes sociales héritées du passé. Les grands propriétaires terriens, ils restèrent à la tête de leur domaine. Le sud devint, par bien des aspects, une colonie du nord, où se concentrait l'industrie. Ces régions du sud, elles vivaient aussi, en plus, sous le poids de bandes armées qui faisaient régner l'ordre, réprimaient les révoltes pour le compte des grands propriétaires, tout en prélevant leurs commissions au passage. D'ailleurs, elles ont appris au cours des années à extorquer pour leur propre compte. Et au fur et à mesure du temps, elles sont devenues les mafias modernes. Et en apprenant justement à manier cette violence et l'extorsion, elles ont fini par constituer de véritables bourgeoisies mafieuses. Au début du XXe siècle, le développement de l'Italie s'accéléra. L'investissement de capitaux étrangers, notamment allemands, attiré par la main-d'œuvre bon marché et puis par l'intervention de l'État, favorisa cette accélération de l'industrialisation qui resta concentrée dans le nord du pays. Au tournant du siècle, l'Italie parvint même à se tailler un petit empire colonial à l'ombre des géants français et britanniques. En 1889, l'État italien colonisa la Somalie, puis l'Érythrée, à la suite de quoi il tenta de coloniser l'Éthiopie, mais son armée fut taillée en pièces par l'armée éthiopienne. Les conditions de vie de la grande majorité des prolétaires des villes et des champs étaient misérables. À la veille de la Première Guerre mondiale, on peut dire que les travailleurs d'Italie gagnaient la moitié de ce que les autres travailleurs d'Europe gagnaient. Puis vint la guerre. Car une fois que les économies capitalistes les plus développées eurent fini de coloniser dans le sang la terre entière pour trouver de nouveaux marchés, elles se jetèrent les unes contre les autres. Alors la guerre économique se transforma en guerre tout court. Et ce furent les masses populaires qui en payèrent le prix fort. Mais après des années de guerre, l'année 1917 marqua le début de la révolte contre la boucherie impérialiste. En février 1917, ce fut la première révolution russe qui balaya le régime tsariste. Et quelques mois plus tard, celle d'octobre, la première révolution ouvrière victorieuse dans l'histoire. Les sacrifices exigés par la guerre impérialiste, les souffrances endurées et l'immense espoir que représentait la victoire du prolétariat russe contre ses exploiteurs propagèrent ensuite une vague révolutionnaire dans de nombreux pays d'Europe. En Italie, où le pain commença à manquer dans les grandes villes dès le printemps 1917, une insurrection éclata à Turin au mois d'août. Elle fut écrasée et la répression fit une cinquantaine de morts. Mais elle annonçait d'autres mouvements, d'autres révoltes, qui culminèrent après la fin de la guerre, durant les deux années rouges qui furent appelées le Biennio Rosso, en 1919 et 1920. Toute l'Italie fut alors secouée par de larges mouvements de grève, accompagnés d'occupations des usines et des terres. Ce fut une situation pré-révolutionnaire, durant laquelle les masses ouvrières et paysannes remirent en cause la sacro-sainte propriété privée bourgeoise. Malheureusement, ce mouvement puissant, qui entraîna l'ensemble des masses pauvres, y compris dans les campagnes, ne trouva aucune direction révolutionnaire prête à en prendre la tête pour le mener plus loin. Les dirigeants réformistes du Parti socialiste italien présentèrent les concessions sur les salaires et les droits syndicaux obtenus alors comme le seul résultat possible, et la vague de grève et d'occupation reflua. La bourgeoisie, terrorisée par l'offensive de la classe ouvrière, profita de ce répit pour riposter. Le mouvement fasciste de Mussolini lui en offrit la possibilité. Celui-ci recruta ses troupes dans la petite bourgeoisie, que la crise économique laissait sans perspective de réussite sociale. Subventionnée par les grands propriétaires terriens et la bourgeoisie, Mussolini mit sur pied des organisations paramilitaires. Relativement peu nombreuses au début, mais bien équipées et mobiles, et puis surtout soutenues par les forces de police, les fascistes concentraient leurs forces pour s'attaquer aux petites villes. Ils y pourchassaient les militants ouvriers, incendiaient les bourses de travail, les sièges des organisations politiques et syndicales, tabassant et parfois assassinant des militants. Le Parti socialiste resta paralysé par son propre réformisme. Il conseilla la patience face aux agressions fascistes et la confiance dans les institutions pour être protégé. Ces mêmes institutions, la police et l'armée, qui laissaient tranquillement passer les chemises noires de Mussolini quand elles ne leur prêtaient pas main forte. Quant au tout jeune Parti communiste, sa faiblesse et l'absence d'une politique crédible en direction des masses ouvrières encore influencées par les directions réformistes ne lui permit pas davantage de s'organiser et de regrouper ses forces pour riposter à la politique fasciste de destruction systématique du mouvement ouvrier. En octobre 1922, Mussolini devint Premier ministre. La dictature fut rapidement mise en place et s'exerça avant tout contre la classe ouvrière. Ces organisations furent interdites, les militants ouvriers arrêtés et enfermés. Pendant 20 ans, la classe ouvrière fut réduite au silence, encadrée dans les usines par des syndicats corporatistes contrôlés par l'État fasciste qui prétendait jouer l'arbitre entre patrons et ouvriers. Sur la scène internationale, la politique agressive de Mussolini ne parvint pas à faire de l'Italie autre chose qu'un impérialisme de second ordre. En 1935, il envoya ses chiens armés pour la seconde fois tenter de coloniser l'Éthiopie, qui fut partiellement occupée pendant 5 ans. Et, en 1940, l'État fasciste partit en guerre à la suite de son allié allemand. Mais cette guerre signifia surtout la débâcle du fascisme. À partir de 1943, le pays connut une nouvelle période de crise. Au niveau intérieur, la situation s'aggrava encore pour la population. En 1941, la ration de calories des Italiens était de moitié inférieure à celle des Allemands, pourtant durement éprouvée par l'effort de guerre. La colère contre le régime et les sacrifices imposés montaient. En mars 1943, en pleine guerre, et alors que la dictature fasciste pesait depuis 20 ans, un mouvement de grève démarra des grandes villes industrielles du Nord. Dans cette Europe en guerre, c'était la première réaction des travailleurs sur leur terrain de classe, non pas contre un occupant étranger, mais contre leur propre bourgeoisie et leur propre gouvernement. Partie de l'usine Rossetti et de la Fiat de Turin, à l'initiative de militants communistes, la grève gagna l'ensemble des usines de la province. Elle bénéficiait d'un vaste soutien populaire et s'étendit bientôt à d'autres régions. Dans le Nord, presque toutes les grandes villes furent touchées. Plus de 100 000 ouvriers participèrent à ces grèves. Et même si ce premier mouvement se dotait principalement de revendications économiques, c'est-à-dire pour les salaires et les conditions de vie, ce réveil de la classe ouvrière redonnait corps au mot d'ordre mis en avant par les révolutionnaires restés internationalistes, qui affirmaient que, pour arriver à une paix véritable, les prolétaires du monde entier devaient se transformer la guerre impérialiste en guerre civile et s'en prendre à leur propre gouvernement et à leur propre bourgeoisie. Face au mouvement de grève, le patronat italien céda partiellement aux revendications, notamment sur les augmentations de salaire. Car la situation sociale illustrait le problème politique de la bourgeoisie. Mussolini avait de toute évidence non seulement perdu la guerre, mais aussi perdu le contrôle de la situation en Italie même. Pour la bourgeoisie, il fallait de toute urgence trouver une solution politique afin d'éviter que l'écroulement du régime fasciste l'aide un vide dangereux. Alors, tout en multipliant les déclarations de fidélité à l'allié allemand, le gouvernement prépara secrètement l'armistice avec les alliés. Mais l'annonce de la chute de Mussolini en juillet 1943 déclenchait un nouvel élan de la classe ouvrière. D'énormes manifestations populaires célébraient la fin du fascisme. À Milan, 4000 ouvriers de l'usine Innocentri avaient marché dans la ville en exigeant la fin immédiate de la guerre. À Genève, des manifestations de femmes organisaient la fraternisation avec des soldats en leur distribuant des œillets rouges. La bourgeoisie craignait la révolution qui aurait pu émerger de la fraternisation des ouvriers et des soldats. Elle réprima brutalement ce mouvement. Dans l'usine Alfa Romeo de Milan, les autorités dépêchèrent des mitrailleuses pour empêcher les ouvriers de quitter l'usine et de rejoindre leurs camarades dans les rues. En septembre 1943, l'Italie plongea dans le chaos. L'armée allemande fit face au retournement de son allié en occupant directement le nord de l'Italie. Le sud, quant à lui, fut occupé par les alliés. Pour prendre le contrôle de territoire, les généraux anglais et américains s'appuyèrent sur la domination de l'Église catholique et des groupes politiques liés à elle ou à la mafia, qui n'hésitaient pas à réprimer dans le sang les mouvements de contestation des travailleurs. La bourgeoisie italienne et les alliés avaient toutes les raisons d'être inquiets. Car même si les alliés parvenaient à occuper complètement le pays, qui serait en mesure de diriger? Ni le gouvernement qui succédait à Mussolini, ni le roi d'Italie ne disposaient du moindre crédit. C'est, finalement, le parti communiste stalinisé qui se révéla le meilleur allié de la bourgeoisie. Il mit en effet toute son influence, tout son poids, au service du maintien de l'ordre bourgeois. Pendant près de 20 ans, par leur abnégation et leur acharnement, des militants communistes, dont le courage physique ne peut que forcer le respect, réussirent effectivement à construire le Parti communiste italien dans la clandestinité et sous une répression féroce. Malgré la répression, leur détermination collective ne flancha pas. Et, en 1943, après l'effondrement de l'État fasciste, le Parti communiste représentait une des seules organisations encore debout et de loin une des plus puissantes politiquement. Mais ce parti construit dans la clandestinité n'avait que peu de tradition ouvrière et avait été davantage formé sur une ligne politique antifasciste et démocratique que sur les traditions de classe. Alors quand, en 1944, le dirigeant du PCI, Togliatti, revint du RSS pour reprendre le contrôle du parti, il ne rencontra que peu d'opposition et put mettre fidèlement en œuvre la politique stalinienne. Sous couvert d'antifascisme, Togliatti prôna la nécessité de l'Union nationale. Il n'était pas question des intérêts de la classe ouvrière, mais de ceux de la patrie. Il n'était plus question de révolution sociale, mais de combattre, je cite, « avec les forces de la liberté », fin de citation, « contre le fascisme ». Mais cela signifiait se ranger du côté de la monarchie. Ce tournant fut tout de même difficile à prendre pour bien des militants communistes. Pour les convaincre, Togliatti avançait des arguments qu'on entend encore de nos jours, de la tactique en deux temps. D'abord la lutte contre le fascisme et l'unité avec la bourgeoisie, et puis la stratégie révolutionnaire, ce serait pour plus tard. Certains militants communistes croyaient tout de même que la résistance au fascisme représentait le début de la révolution. D'autant que l'agitation ouvrière reprit en 1944, en particulier dans le nord industrialisé. En mars 1944, un an après la première vague de grève, un mouvement encore plus important se développa dans le Nord, avec cette fois des revendications politiques, la fin immédiate de la guerre, ainsi que de la production pour l'Allemagne. Dans la seule province de Milan, plus de 300 travailleurs manifestèrent. C'étaient les femmes qui étaient à l'avant-garde de l'agitation. Mais, un mois après que ce mouvement gigantesque de grève, Togliatti s'exprimait dans ces termes. Je cite, « L'objectif que nous proposons au peuple italien, une fois la guerre terminée, sera de créer un régime démocratique et progressiste. Nous savons les profondeurs de destruction survenues dans le tissu social, et nous savons donc que si nous donnions un autre objectif, nous ne remplirions pas les devoirs que nous avons envers la nation. » Fin de citation. La nation, autant dire la bourgeoisie. C'est cette politique que le PCI appliqua. De 1944 à 1947, son dirigeant, Togliatti, participa à tous les gouvernements successifs en étant prêt à toutes les concessions pour remettre en selle la bourgeoisie et son État. L'Italie était le pays d'Europe occidentale où les possibilités révolutionnaires de la période de fin de guerre avaient commencé à se concrétiser. La classe ouvrière se mobilisait et menait des grèves. Le régime fasciste s'était effondré. La bourgeoisie n'avait pratiquement pas de solution de rechange, sauf celle que le Parti communiste lui offrit, qui permit d'étouffer toute perspective révolutionnaire au sortir de la guerre. Entre 1945 et 1950, la population vécut des années presque aussi dramatiques que celles de la guerre. Certaines villes avaient été aux trois quarts détruites par les bombardements. L'inflation et la hausse des prix réduisaient à néant le pouvoir d'achat des travailleurs et le chômage s'aggravait. Dans les villes, la crise du logement sévissait et les périphéries étaient recouvertes de bidonvilles. Dans les campagnes, faute de réformes agraires, les ouvriers agricoles subissaient toujours la loi des grands propriétaires. Mais les travailleurs ne restèrent pas sans réagir. De nombreux conflits sociaux éclatèrent. En 1949, des grèves éclatèrent dans le secteur de la chimie, de la métallurgie, du textile et du bâtiment. L'année suivante, en réponse à des plans de licenciement, une vague d'occupation d'usines se propageait. Mais toutes les grèves furent défaites. La répression qui s'abattait sur la classe ouvrière était alors à la hauteur de la peur de la révolution qu'elle avait inspirée à la bourgeoisie. L'action syndicale était pourchassée. Les militants devaient opérer dans la clandestinité au sein d'une organisation déchirée par les tensions entre communistes et socialistes qui finalement se scinda en août 1948 en plein cœur de cette période de conflit et de répression. Dans le sud, c'est la question de la terre qui était la plus aiguë. Une vague d'occupation de terres par les paysans se répandait à partir de la Calabre à l'automne 1949. certaines furent durement réprimées. La peur des classes populaires et l'arrivée de la guerre froide accrurent encore l'anticommunisme de la bourgeoisie. En dépit de toutes les preuves de sa servilité, le Parti communiste italien fut rejeté du pouvoir en 1947, après avoir muselé la classe ouvrière à la sortie de la guerre, permis la constitution de la République, ainsi que la réhabilitation des cadres fascistes. Mais ni ce renommement de la bourgeoisie, ni la répression qui s'abattit sur ses militants ne lui fit changer de politique. Au contraire, le Parti communiste continua à suivre la ligne stalinienne, en défendant bec et ongle ce que ses dirigeants appelaient alors la plus belle constitution du monde. Comme en France et en Belgique, la bourgeoisie congédia donc sans cérémonie le Parti communiste, qui dut quitter le gouvernement dirigé par la démocratie chrétienne en mai 1945. Il faut dire un mot de cette démocratie chrétienne, c'était le nom d'un parti politique, qui était soutenu par l'Église catholique et qui fut la colonne vertébrale du régime italien pendant près de 50 ans. Elle se présentait alors comme le rempart pouvant protéger l'Italie du fascisme, mais surtout du péril communiste. La démocratie chrétienne devint la clé de voûte de tous les gouvernements pendant près de 50 ans, se maintenant au pouvoir à coups de coalition, tantôt sur sa gauche, tantôt sur sa droite. Et il ne fallut pas attendre longtemps pour que la façade de l'hypocrisie antifasciste de cette démocratie chrétienne ne vole en éclats. Dès 1958, un de ses dirigeants, qui peinait alors à trouver une coalition électorale, fit alliance avec le MSI, c'est le Mouvement Social Italien, le parti qui, depuis 1948, attirait à lui tous les nostalgiques du fascisme et dont aujourd'hui le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est l'héritier. Mais si l'antifascisme n'était pour la démocratie chrétienne qu'un vœu pieux, ses gouvernements savaient par contre être forts contre la classe ouvrière. Les années 50 furent celles d'une politique offensive contre les travailleurs. Chaque grève, chaque manifestation était fortement réprimée. À partir de 1947, le ministre de l'Intérieur démocrate chrétien intensifia la répression. Obsédé par la présence de militants communistes dans les rangs des forces de l'ordre, il fit passer le nombre de carabiniers de 30 000 à 70 000 en procédant à un véritable chasse aux sorcières et au fichage des cadres du Parti communiste, tout en créant une garde mobile spécialisée dans la répression des grèves et des manifestations. Entre 1947 et 1950, la garde mobile tua 98 personnes, et sur une période de 5 ans après sa création, près de 150 000 autres furent arrêtés pour des faits liés à des conflits sociaux, dont 61 000 furent condamnés à la prison. Et dans sa répression des classes populaires, la bourgeoisie pouvait non seulement compter sur le gouvernement démocrate chrétien, mais tout autant sur des bandits et des mafieux. Lors du 1er mai 1947, un meeting en Sicile fut mitraillé par le bandit Salvatore Giuliano, faisant 11 morts. Entre 1946 et 1948, on compte 36 assassinats de dirigeants syndicaux en Sicile, directement commandités par les grands propriétaires fonciers, lesquels profitaient d'une totale impunité. À la fin des années 50, l'économie européenne connut une période d'expansion. Ce fut les années dites de miracle économique en Italie. Mais le miracle en question venait surtout que l'économie italienne avait du retard. Et donc, comme ça se passe souvent dans ces cas-là, le capital se concentra plus rapidement et la production augmenta plus rapidement également, 100% en quelques années. Et puis aussi, il y avait le fait que les capitaux étrangers s'investirent massivement en Italie. Ils étaient attirés par le niveau des salaires faibles qui restaient justement les plus bas d'Europe. Pour faire face aux besoins de la main-d'œuvre, les patrons disposaient d'un réservoir d'immigration intérieure dans les régions sous-développées du Sud. Il faut se rendre compte, de 1955 à 1971, donc en 6 ans, c'est 9 millions d'Italiens du Sud, des campagnes du Nord-Est, qui prirent ainsi le chemin des grandes villes industrielles du Nord. 9 millions en 6 ans. En 10 ans, la population de Turin et de sa banlieue augmenta de près d'1 million de personnes, sans que les infrastructures ou les logements ne suivent. Si on trouvait du travail sans difficulté en arrivant au Nord, les conditions de vie étaient à peine meilleures que dans les villages pauvres du sud, voire pire. Le lichot devint une forme de vie pour beaucoup de jeunes ouvriers, qui laissaient leur lit à un camarade de l'équipe précédente lorsqu'ils allaient prendre leur service, le lit n'ayant pas de refroidir, d'où le nom. La demande de main-d'œuvre fit baisser le chômage et augmenter un peu les salaires. Cette jeune classe ouvrière, dépourvue de tradition, sentit que le rapport de force lui était plus favorable. Dès le début des années 60, le climat social commença à changer, avec une reprise des grèves et de la mobilisation ouvrière. Les 43 millions d'heures de grève en 1961 triplèrent, passant à plus de 126 millions en 1962. Cette période fut l'occasion pour beaucoup d'ouvriers d'éprouver leur force au cours de grandes grèves et d'affrontements avec la police, notamment autour de la lutte de la Fiat à Turin. 7 ans après la reprise des luttes de la classe ouvrière et à la suite de l'année 1968 qui avait porté une vague de contestation du capitalisme dans bien des pays, l'automne de 1969 resta connu en Italie sous le nom d'automne chaud, même si c'est toute l'année qui vit le nombre de grèves augmenter. C'était les grèves pour l'abolition des zones salariales qui permettaient aux patrons de baisser les salaires dans des régions, grève pour le renouvellement des contrats dans les différents secteurs, mais aussi grève pour obtenir les rythmes de travail plus humains et des droits sociaux. Dans toutes les grandes villes du pays, la classe ouvrière relevait la tête, et en particulier la jeunesse ouvrière qui, encouragée par le mouvement étudiant, commença à se faire entendre, à manifester, à occuper les rues. Turin vécut cette année-là au rythme des mouvements qui touchaient la Fiat. Avec ses dizaines de milliers d'ouvriers, c'était la plus grande concentration de travailleurs du pays, en même temps, le symbole de la politique répressive du patronat italien. Elle devint le haut lieu des luttes ouvrières. Voici comment décrivait un ouvrier le climat qui régnait sur l'un des sites où 40 000 ouvriers travaillaient. Je le cite. Chaque atelier a commencé à faire grève pour ses objectifs. À la peinture, parce qu'il voulait des cabines plus grandes. Au montage, pour une augmentation. À la soudure, pour réclamer la distribution d'un verre de lait pour lutter contre les fumées nocives. Et ainsi de suite. Et si l'un d'entre nous s'arrêtait, tout le monde le suivait, et ensuite, les objectifs de chaque atelier devenaient des objectifs communs. Le changement de catégorie, l'augmentation des salaires égales pour tous, le samedi non travaillé, etc. L'un des problèmes soulevés par les travailleurs dans ces mobilisations fut de faire entendre les revendications de la base, d'avoir délégué. En effet, il y avait bien des militants syndicaux parmi les ouvriers, mais ils n'avaient aucun mandat représentatif. Par exemple, en 1969, à la Fiat, il y avait 18 représentants syndicaux, tous choisis par le syndicat et non par les ouvriers. Ces représentants-là, ils avaient bien du mal à nommer les ouvriers de l'usine qui étaient censés représenter. Au départ de ce vide de représentation à la base, ce vide de représentation à la base ne posait pas de problème majeur au patronat et aux appareils syndicaux. Mais avec la reprise des luttes, il leur rendait le contrôle des réactions ouvrières plus difficile. Les syndicats ressentaient de plus en plus la contestation de la jeunesse et le développement de groupes d'extrême gauche qui cherchaient à se lier aux travailleurs et dénonçaient les trahisons de la bureaucratie syndicale. Alors, le principal syndicat, la CGIL, reprit à son compte la revendication de délégués de secteur. Début septembre 1969, lors des négociations pour le renouvellement de nombreux contrats, les luttes se généralisèrent. Les syndicats durent tenir compte du climat qui régnait dans les usines depuis plusieurs mois. Ils surent utiliser un langage radical et organiser des journées de grève auxquelles la participation fut importante. Ces manifestations furent radicales, émaillées d'affrontements avec la police et d'incidents, notamment pendant les cortèges internes. Alors les cortèges internes, c'est quoi ? C'est les cortèges que les ouvriers italiens faisaient à l'intérieur même de l'usine pour emporter avec eux les collègues. Eh ben, lors de ces cortèges internes, il y a eu des affrontements entre, d'une part, les managers et les chefs, et puis les grévistes. Mais les directions syndicales choisirent d'organiser les grèves région par région pour éviter que la mobilisation des travailleurs, qui était pourtant générale, ne se transforme en un mouvement d'ensemble de toute la classe ouvrière qui aurait pu menacer la bourgeoisie. Quant aux patrons, ils tentèrent d'abord d'intimider les travailleurs en multipliant les sanctions contre les grévistes et les mises au chômage technique. Mais, malgré toute leur répugnance à ces deux ouvriers, ils comprirent que pour éviter que le mouvement ne s'approfondisse, il leur fallait se résoudre à accorder des augmentations de salaire. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas hésité pour maintenir leur pouvoir à accorder plein de choses. Par exemple, les nouveaux contrats qui étaient signés à partir de novembre 1969, ils accordaient des avancées importantes aux travailleurs. La semaine de travail passait à 40 heures. Le droit de représentation syndicale était entériné. Et puis, il y a plein d'augmentations de salaire qui avaient été accordées. Toutes ces concessions importantes, elles n'auraient pas été possibles sans la mobilisation de l'automne chaud. Cette période, en plus, elle permit à la classe ouvrière de redresser la tête, de se faire respecter. Dans les quartiers, dans les usines, les discussions politiques animaient la vie quotidienne. Le sentiment général était que l'avenir appartenait aux travailleurs. Les mobilisations nombreuses virent l'engagement d'une nouvelle génération d'ouvriers, dont une fraction était sensible aux arguments de l'extrême gauche sur la nécessité de mener la lutte des classes jusqu'au bout. Mais du fait des limites politiques des groupes gauchistes, ce n'est malheureusement pas de leur côté que les travailleurs trouvèrent des perspectives réelles. Alors, après des mois de lutte et de mobilisation, les nouveaux contrats obtenus furent d'autant plus largement approuvés par les travailleurs qu'ils leur étaient présentés par le Parti communiste et les syndicats comme des conquêtes historiques. Le gouvernement, à majorité démocrate chrétienne, alla aussi dans le sens du retour au calme. En mai 1970, un décret amnistia tous les travailleurs poursuivis pour dégradation ou violence. Et le gouvernement fit voter ce qui s'est appelé le statut des travailleurs, qui confirmait la conquête de nouveaux droits, notamment sur le plan syndical. Mais avant de céder face au soulèvement de la classe ouvrière, une partie de la bourgeoisie italienne n'hésita pas à employer les grands moyens. Le 12 décembre 1969, une bombe explosa à Milan, faisant 16 morts et des dizaines de blessés. L'attentat fut le premier d'une série d'attentats d'extrême droite, dont le but était d'entretenir une stratégie de tension. Il s'agissait d'alimenter un climat de terreur en organisant des attentats dans des lieux publics pour les attribuer à l'extrême gauche afin de préparer les esprits à un coup d'état militaire qui ramènerait l'ordre. Plus tard, il fut confirmé que ces attentats avaient reçu l'appui militaire et le soutien politique d'une partie de l'appareil d'État, dont les services secrets et une partie de l'armée. À l'extrême gauche, des militants, déçus par le reflux, choisirent pourtant eux-mêmes l'impasse du terrorisme politique. Ils créèrent des groupes armés dont l'objectif était de montrer l'exemple aux masses en assassinant des personnalités représentant le capitalisme. Ils prétendaient montrer la voie révolutionnaire à suivre. Les Brigades Rouges furent le plus important de ces groupes, mais leurs actions, déconnectées de la classe ouvrière, furent surtout l'occasion pour l'État de renforcer la police et l'armée. Globalement, au niveau politique, c'est le Parti communiste qui tira bénéfice de cette période d'agitation ouvrière. Ainsi, pendant les années 70, le PCI passa de 28% des voix à près de 35% des voix en 1978. Il parvenait comme ça à un niveau équivalent à celui de la démocratie chrétienne. Cette montée du PC se produisit alors que la période d'expansion économique touchait à sa fin. À partir de 1973 et du premier choc pétrolier, la bourgeoisie italienne commença à réclamer une politique d'austérité pour maintenir ses profits. Le Parti communiste fit alors, et à nouveau, la démonstration qu'il était une force politique responsable devant la bourgeoisie. En 1973, son dirigeant commença à parler du compromis historique à réaliser avec les forces démocratiques, même de droite, pour éviter à la classe ouvrière italienne un coup d'État militaire renversant la démocratie, comme ce qui s'est passé au Chili, en tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Cela voulait dire l'unité avec la démocratie chrétienne. Assez vite, ce compromis historique mit le PCI dans une situation difficile, les électeurs se détournant de ce parti qui soutenait la politique de la droite. Il reprit donc le chemin de l'opposition, après avoir aidé la bourgeoisie à prendre ses premières mesures d'austérité, ce qui la mettait en position de force pour la suite. Car de son côté, le patronat voulait restaurer ses profits. La période d'effervescence ouvrière des années 1970 n'avait évidemment pas été à son goût. C'est la Fiat qui ouvrit les hostilités en annonçant en septembre 1980 14 000 licenciements. Les travailleurs répondirent par un mois de grève avec occupation, au bout duquel les syndicats signèrent un accord actant les licenciements massifs. Les ouvriers eurent conscience de la trahison des directions syndicales, d'autant que celles-ci prétextèrent la conclusion de l'accord pour annuler la grève nationale qui avait été prévue. La démonstration de force faite par le patron de la Fiat et la complicité affichée des syndicats ouvrirent la voie à l'ensemble du patronat. Dans les grandes entreprises, les patrons procédèrent de la même façon pour licencier massivement. Quant aux dirigeants syndicaux, ils se servirent de la défaite de la Fiat, défaite qu'ils avaient eux-mêmes entérinée et même organisée, pour justifier l'impossibilité de se battre contre l'offensive patronale à grande échelle. Comme dans les autres pays capitalistes, les années 1980 furent marquées par la volonté de la bourgeoisie d'imposer la priorité de la sauvegarde de ses profits. Alors comme en France à la même époque, la bourgeoisie italienne s'appuya sur sa gauche. Et c'est le Parti socialiste qui peut saisir sa chance d'aller au pouvoir sous la houlette de la démocratie chrétienne. Le Parti socialiste fit alors ses preuves à la bourgeoisie en s'attaquant à l'échelle mobile des salaires, ce qu'on appelle l'indexation des salaires en Belgique, qui avait été mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comme en Belgique, l'indexation en Italie était manipulée par le gouvernement et ne permettait pas de se protéger complètement des hausses de prix. Mais elle compensait au moins une partie de l'inflation. Et c'est en tant que telle qu'elle était une des bêtes noires de la bourgeoisie, grande et petite, qui l'accusait de réduire, comme elles le font aujourd'hui en Belgique, la compétitivité des entreprises. Sans attendre des syndicats, les travailleurs se mobilisèrent. Mais leur mouvement de défense fut finalement sabordé par l'activité conjointe du syndicat principal, la CGIL, et du Parti communiste italien. Alors comment est-ce qu'il a fait ? C'est intéressant, le Parti communiste italien, pour saborder lutte des travailleurs, la mobilisation des travailleurs, il plaça le problème de l'opposition à la taxe sur l'échelle mobile et des salaires sur le terrain d'un référendum qui eut lieu un an après que le mouvement se déclencha et où les voix des travailleurs se retrouvèrent noyées sous celles de la petite bourgeoisie, boutiquiers, professions libérales et autres petits entrepreneurs, ainsi que sur celles des curés et des bonnes qui pullulent en Italie, et tout à fait d'accord pour que les travailleurs soient moins payés. À la fin des années 80, le congrès du Parti communiste réaffirma sa volonté d'être l'équivalent du Parti social-démocrate allemand ou du Labour Party anglais et demanda son adhésion à l'Internationale socialiste. Un an plus tard, au moment de la chute du mur de Berlin, son secrétaire ouvrit la discussion sur la nécessité de changer le nom. Le Parti communiste devint alors le Parti démocratique de gauche. C'était en 1991, et pour savoir, en 2007, ce Parti démocratique de gauche, il a même abandonné toute référence à la gauche pour devenir le Parti démocratique. Voilà. Il y a quand même une minorité de ce parti qui s'est opposée à cette évolution, et qui se constitua en partie de la refondation communiste. Alors, au début des années 90, il s'est passé quelque chose d'intéressant en Italie, pour les leçons qu'on peut en tirer. Car le 17 février 1992, un conseiller municipal socialiste fut arrêté en flagrant délit. Il était en train de recevoir un pot de vin d'un fournisseur. Ce fut le coup d'envoi d'une enquête qui, sous le nom de « Mains propres », mobilisa l'opinion publique contre la corruption. L'enquête des mains propres, elle a montré que la pratique des pots de vin versés aux partis et aux politiciens par les patrons, notamment lors de la conclusion de marchés publics, c'était un système généralisé. Elle éclaboussa toute la classe politique italienne. En 2 ans, près de 2/3 des députés et des sénateurs furent mis en examen. Mains propres sonna comme le glas de la démocratie chrétienne et du Parti socialiste. Les révélations sur la corruption, le clientélisme et les magouilles avaient de quoi choquer l'opinion publique. Mais le scandale ne déboucha nullement sur une démocratie plus honnête. Ce sont les partis politiques corrompus qui furent désignés comme principales responsables de tous les maux de l'Italie. Ils jouèrent leur rôle de fusible. Les capitalistes, eux, ils ont été présentés, notamment par le Parti démocratique de gauche, comme, je vais citer ces gars-là, des entrepreneurs honnêtes et méprisants qui avaient été victimes du chantage des partis et d'un appareil d'État inefficace et parasite. Capitaliste, hein. Bon. À droite, c'est là aussi qu'il faut voir, parce que à droite, une nouvelle force politique tira le profit de la crise ouverte par l'opération Mains propres. C'est la Ligue du Nord, un parti xénophobe et régionaliste. Pour la Ligue du Nord, la dénonciation des partis et de l'inefficacité de l'État venait à point nommé, car elle n'avait pas d'autre programme politique que ses discours démagogiques contre l'État, les Italiens du Sud et les immigrés. Aux élections de 1992, la Ligue du Nord fit un score national de 9% et, dans les régions du Nord, elle gagna jusqu'à 20% des voix, devenant le principal concurrent du Parti démocratique de gauche dans les anciens bastions rouges de l'Italie. La Ligue du Nord parvint à attirer une partie électorale populaire, déboussolée par l'évolution de l'ex-parti communiste au moment où les attaques du patronat s'intensifiaient pour imposer l'austérité. Quant au Parti démocratique de gauche, l'ex-PC, il ne tira pas immédiatement profit de sa reconversion. Loin des 30% que l'ancien Parti communiste obtenait aux élections, le nouveau Parti démocratique de gauche dut se contenter de 16% des voix. Et, comble de l'ironie, c'est dans le cadre des grands bouleversements liés à la pseudo-moralisation des politiciens qu'un certain Silvio Berlusconi allait faire son entrée en politique. Mais avant Berlusconi, avant de sombrer, les vieux partis de la bourgeoisie allaient encore servir ses maîtres contre la classe ouvrière. En 1992, le dernier gouvernement issu d'une coalition entre démocrates, chrétiens et parti socialiste, fit un geste ultime pour la bourgeoisie. Le plan d'austérité de son premier ministre contenait en effet la suppression complète de l'indexation des salaires. Attention, parce que pour faire passer la mesure, le parti socialiste y put s'appuyer sur les syndicats qui signèrent l'accord, et la date est importante, le 31 juillet 1992, c'est-à-dire au moment où une grande partie des travailleurs étaient partis en vacances. À leur retour, évidemment, les travailleurs, ils voulaient en découdre. Mais les dirigeants des syndicats, ils temporisèrent. Ils firent mine de tenir compte du mécontentement des travailleurs. Ils organisèrent des grèves générales, mais région par région, et jamais le même jour. C'est dans ce contexte que les élections législatives de mars 1994 donnèrent la victoire à la coalition de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, il est mort il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 semaines. Bon, c'était un mania de l'immobilier, de l'audiovisuel, patron du club de foot AC Milan. Il figurait parmi les premières fortunes mondiales et avait constitué en quelques mois un nouveau parti appelé Forza Italia. Pour gagner les élections, Berlusconi, il pouvait s'appuyer sur la déconsidération de la gauche, tout comme sur son argent et le relais de son empire médiatique. Tout cela lui permit de se propulser la tête du gouvernement. Il profita du vide laissé par la démocratie chrétienne et le Parti socialiste, complètement décrédibilisé, tout en recyclant une bonne partie de leurs représentants. Lors de ces élections, Berlusconi il s'était allié avec la Ligue du Nord et l'Alliance Nationale. L'Alliance Nationale, c'est le parti dont est issu le parti de Meloni, Fratelli d'Italia. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont au gouvernement. La première coalition de Berlusconi ne tint pas la route longtemps. Lorsqu'il fallut assumer l'impopularité des mesures anti-ouvrières, et en particulier s'attaquer aux retraites, la Ligue du Nord retira son appui au gouvernement de Berlusconi. En l'automne 1994, les syndicats ils organisèrent 2 journées d'action à 1 mois d'intervalle, qui furent toutes les deux de grands succès. Mais les directions syndicales, à la suite de ces 2 journées de mobilisation, elles lancèrent un appel à une nouvelle grève générale, tout en se déclarant prêtes à l'annuler si le gouvernement acceptait de discuter du contenu de la réforme. Et c'est finalement ce qui se produisit, mais après la chute du gouvernement de Berlusconi, ayant perdu l'appui de la Ligue du Nord, ce gouvernement tomba. Forza Italia et l'Alliance du Nord se retrouvèrent donc dans l'opposition, alors que le nouveau gouvernement était mis en place grâce au soutien d'un parti centriste, mais aussi de la Ligue du Nord, et du Parti démocratique de gauche, qui soutenait le même gouvernement du coup que la Ligue du Nord. Aux élections législatives suivantes, en 1996, ce fut finalement la coalition de gauche qui l'emporta. C'était la première majorité de gauche à remporter les élections depuis l'après-guerre. Avant, ils avaient toujours été là avec la démocratie chrétienne. Avec ce gouvernement, le Parti démocratique de gauche, donc l'ancien Parti communiste, il comptait bien démontrer enfin ses capacités à gérer les affaires de la bourgeoisie. Son gouvernement fut, selon ses propres termes, celui de la rigueur. Au nom de la compatibilité du budget italien avec les critères stricts imposés pour rentrer dans la zone euro, le gouvernement fit passer des mesures d'austérité et au nom de l'emploi, il développa la précarité avec une série de mesures introduisant le travail intérimaire, les coopératives sous-traitantes, etc. Les organisations syndicales signèrent toutes les mesures sans sourciller. Alors aux élections suivantes de mai 2001, c'est le gouvernement Berlusconi qui l'emporta. Il reprit l'œuvre commencée par les gouvernements de centre-gauche. Il se heurta là à une mobilisation massive de centaines de milliers de travailleurs. Mais la CGIL, le principal syndicat, encadra ce mouvement dans d'étroites limites et ne mit en avant aucune revendication pour contester les reculs des années précédentes qui avaient été votés par la coalition de gauche. Les années qui suivirent furent du même acabit. À Berlusconi succéda en 2006 la coalition du Parti démocratique, ex-PCI, qui ne dura pas 2 ans, mais qui quand même, dans ce laps du temps, fut suffisante pour faire passer une énième réforme des retraites avec l'appui de toutes les confédérations syndicales. Après la chute de ce gouvernement, Berlusconi fut de nouveau élu, et c'est dans cette situation que frappa la crise financière de l'automne 2008. Une crise dont la bourgeoisie italienne, tout comme ses homologues, était déterminée à faire payer les conséquences à la classe ouvrière. Mais la politique offensive de Berlusconi dans ces années-là ne fut pas suffisante pour apaiser les vautours de la finance. Au cours de l'année 2011, L'Italie fut la cible d'attaques spéculatives des marchés financiers. Le taux d'intérêt exigé par les banques pour prêter l'État italien monta en flèche. Berlusconi dut remettre la démission de son gouvernement, laissant la place ainsi à Mario Monti, un technocrate ancien de Goldman Sachs, parachuté à la tête d'un gouvernement dit technique, car aucun parti de la bourgeoisie n'était prêt à assumer la responsabilité de la politique exigée par le patronat et les marchés financiers, même s'ils étaient prêts à le soutenir depuis les bancs du Parlement. Mario Monti poursuivit la politique d'austérité initiée par Berlusconi en créant de nouveaux impôts, en imposant une nouvelle réforme de la retraite, et en coupant dans les budgets de l'ensemble des services publics sans quasiment rencontrer de résistance syndicale. De 2013 à 2018, se succédèrent des gouvernements qui continuèrent à réduire les droits et le niveau de vie de la classe ouvrière au profit de la bourgeoisie. Même le mouvement 5 étoiles de l'ancien comédien Beppe Grillo, qui se présentait comme anti-système, ne rompit pas cette politique. D'ailleurs, il a été au gouvernement avec la Ligue de Salvini, le parti xénophobe dont on a parlé tout à l'heure, qui lui profita de son passage au gouvernement pour mener une politique anti-migrants. Alors, il y a eu... Oui, c'est ça. En 2018, donc je viens de le lire, c'est ça. Là, ce qui s'est passé, c'est que la Ligue du Nord a gagné dans les sondages et elle croyait qu'elle allait pouvoir, enfin, en provoquant une crise politique, reprovoquer de nouvelles élections et donc pouvoir passer au gouvernement seul, c'est-à-dire sans le mouvement 5 étoiles. Mais grâce à des tractations politiques, c'est le mouvement 5 étoiles qui se maintient au gouvernement grâce à des coalitions. Et donc, c'est avec un gouvernement formé du centre-gauche, du Parti démocrate et du mouvement 5 étoiles que l'Italie affronta la crise du Covid. Avec le slogan « Tous ensemble, on y arrivera », ce gouvernement entonnait le refrain de l'unité nationale pour mieux réclamer des travailleurs, je cite, « qu'ils se retroussent les manches », tout en déversant des milliards dans la poche des entreprises. En Italie, la crise sanitaire a été très violente. Le système de soins de santé avait été mis à mal par des années d'économie. Pour ne donner qu'un chiffre, qui ne peut pas à lui seul résumer cette réalité. Entre les années 2000 et 2019, le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux avait baissé de 35%. À cela s'ajoutait encore la régionalisation du système de soins de santé, qui, en plus d'accroître les inégalités d'accès aux soins, facilite la corruption. Avec plus de 30 000 morts lors des premières semaines de l'épidémie, l'Italie est l'un des pays européens où la pandémie a fait plus de victimes, principalement concentrée dans les régions industrielles les plus peuplées du Nord. Une travailleuse d'une des usines du Nord expliquait, je vais la citer, « L'hécatombe a une seule origine. Les patrons n'ont jamais voulu arrêter les usines. En nous faisant aller travailler chaque jour, ils ont mis nos vies en danger et ont contribué à la mort de centaines, de milliers de personnes fragiles auxquelles ils nous ont fait ramener le virus. Ce sont des criminels. » Dès le 12 mars, l'obligation de continuer le travail dans beaucoup de secteurs non essentiels a entraîné les débrayages de travailleurs, en particulier dans le Nord, mais aussi dans plusieurs grandes entreprises du Sud. Ce large mouvement de protestation a poussé les directions nationales des syndicats à menacer d'une grève générale si rien n'était fait. Le gouvernement finit par décréter la fermeture des entreprises non essentielles, mais la liste des exceptions, dictée par le grand patronat, allait de la métallurgie à la chimie, en passant par le caoutchouc et même l'industrie de l'armement. Quant à l'extrême droite, en bon démagogue, elle se saisit de tous les mécontentements, tantôt pestant contre le confinement au nom de la liberté des entrepreneurs, en accusant le gouvernement d'être l'esclave des syndicats, tantôt prétendant parler au nom des travailleurs pauvres, oubliés par le gouvernement. L'Italie connut alors deux crises politiques. De 2021 à 2022, on vit apparaître et disparaître l'ancien banquier central Mario Draghi à la tête du gouvernement. C'est la chute du gouvernement de Draghi qui a conduit à l'organisation des élections de 2022 qui ont donné la prime au parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Alors pourquoi, une des raisons qui peut expliquer ça, c'est que ce parti, il était resté, c'était le seul d'ailleurs parti à être resté rigoureusement à l'écart des coalitions gouvernementales qui se sont succédées pendant 4 ans. Mais la véritable gagnante des élections, ça n'est pas Meloni, mais c'est l'abstention qui atteint le niveau historique de 40%. Alors, comme on l'a vu, le parti de Giorgia Meloni plonge ses racines dans l'histoire du fascisme. Beaucoup alors se sont demandé si l'Italie ne se dirigeait pas vers un régime de ce type, vers un régime fasciste. Mais la différence avec les situations d'alors sont si nombreuses que la comparaison ne tient pas la route. Cependant, s'il est vrai que le gouvernement Meloni ne vise pas actuellement à établir un régime fasciste, il est également vrai qu'il doit flatter cette partie de son électorat. Les premières mesures du gouvernement ont manifestement voulu donner le sentiment d'un gouvernement de la loi et de l'ordre. C'était visible avec l'affaire du navire Ocean Viking, dans laquelle un bateau rempli de migrants n'a pas pu accoster en Italie, mettant ainsi la vie de tous ces migrants en danger, tout cela pour montrer que l'Italie sait se défendre. C'était aussi visible avec le matraquage d'étudiants qui protestaient contre une conférence néofasciste dans l'université de Rome, ou encore avec la proposition de loi anti-rêve dirigée contre les rassemblements non autorisés de jeunes. Mais les aspects les plus importants de la politique de Meloni sont les aspects économiques. Et là, il s'agit de continuer sur la voie tracée par Draghi et ses prédécesseurs, et donc d'attaquer la classe ouvrière. Mais là aussi, dans les mesures économiques, Meloni, elle pense à l'électorat petit bourgeois sensible à ses arguments et à ses idées. Pour les flatter, une réforme fiscale leur garantit, ces petits bourgeois commerçants, des avantages fiscaux. Elle leur permet par ailleurs d'effectuer des transactions commerciales en espèces jusqu'à 5 000 euros, et puis limite l'obligation pour les commerçants d'accepter les paiements par carte bancaire seulement au-delà de 60 euros. Le gouvernement Meloni est par ailleurs en train de démolir une grande partie du revenu de citoyenneté. Cette mesure, qui avait été instituée par le mouvement 5 étoiles lors de son passage au gouvernement, fournit à des millions de personnes un revenu minimum de survie, même s'il est absolument insuffisant et si une grande partie de pauvres n'en bénéficie pas, notamment les immigrés ayant moins de 10 ans de résidence en Italie. Donc, il y a d'autres attaques de ce type et la situation des travailleurs s'en trouve encore aggravée. Pour donner un ordre d'idée, il y a 400 000 familles dont la survie dépend directement du revenu de citoyenneté. Et la situation de la classe ouvrière s'est d'autant plus aggravée que la hausse des prix, enfin, elle a été touchée aussi par la hausse des prix comme en Belgique. Les salaires y baissent. Plus de 5 millions de salariés y déclarent moins de 10 000 euros par an de salaire. Et dans la jungle des entreprises de sous-traitance, les travailleurs font face à des patrons qui s'arrogent tous les droits. Entre janvier et septembre 2022, c'est 700 ouvriers qui sont morts sur le lieu de travail. Mais les travailleurs italiens n'ont pas cessé de lutter, notamment face à la hausse des prix. Dans le courant de l'année écoulée, au sein des quartiers populaires de Turin, de nombreux habitants se sont réunis sur la place principale pour discuter et s'organiser. Depuis lors, de nombreuses initiatives ont suivi, avec des piquets devant les bureaux des sociétés d'énergie, une campagne de cessation de paiement des factures, des assemblées, des tables sur les marchés, mais aussi des grèves, comme en Metz cette année à l'usine Stellantis près de Naples. Cependant, il n'existe pas de parti révolutionnaire en Italie qui pourrait élever le niveau de conscience de ses luttes, unifier sa lutte, soutenir la classe ouvrière et puis défendre l'idée de la démocratie ouvrière. Car, en plus, les trahisons des partis de gauche ont détruit les traditions et la conscience de classe. Ce sont ces partis de gauche, le Parti socialiste et l'ancien Parti communiste, qui portent la responsabilité de la désorientation des travailleurs, qui rejettent aujourd'hui massivement la politique qu'ils associent à toutes les trahisons et les corruptions. Ce sont ces partis qui ont créé la place et les conditions de la montée de l'extrême droite en Italie, comme ils le font ailleurs. En conclusion, on peut dire que les travailleurs de Belgique ont intérêt à connaître l'histoire de leurs frères d'Italie. Ici aussi, ils connaissent les partis de gauche et les directions syndicales qui n'ont pas d'autre perspective que de les trahir. Et ici aussi, la désorientation du monde du travail et le dégoût des politiciens créent un terreau fertile aux idées d'extrême droite. Mais l'histoire de la classe ouvrière en Italie montre aussi, et surtout, la puissance que représente le mouvement ouvrier. Alors qu'aujourd'hui, le risque de guerre généralisée ne fait que s'accroître, l'histoire des travailleurs d'Italie démontre la confiance inaltérable que l'on ne peut qu'avoir dans la classe ouvrière, seule classe porteuse d'avenir pour l'humanité. Par deux fois, la classe ouvrière d'Italie a fait la démonstration que les guerres peuvent accoucher de situations quasi pré-révolutionnaires. À chaque reprise des luttes, des ouvriers, et en particulier des jeunes, s'élèvent, deviennent des dirigeants de leur classe, de véritables combattants communistes, à qui il ne manque ni force, ni courage, ni détermination. Mais ce qui a manqué en Italie, comme dans tous les pays du monde, sauf en Russie en 1917, c'est un parti communiste révolutionnaire, sans laquelle la classe ouvrière ne peut résister aux traîtrises des partis staliniens et réformistes, qui sont prêts à tout pour maintenir l'ordre de leur maître bourgeois. Alors pour l'humanité, la tâche la plus importante et la plus urgente est donc de reconstruire un tel parti. Alors, à bas les guerres, à bas le capitalisme, vive la classe ouvrière d'Italie et de tous les pays du monde. Ouais. Bon ben c'est le moment.